patrimoine et spiritualité. Patrimoine et spiritualité, une émission réalisée avec Chantal Bruel. Nouvelle émission Patrimoine et Spiritualité, toujours je suis avec Chantal au studio de Radio Présence à Figeac. Bonjour Chantal.
Bonjour Armand.
Alors aujourd'hui, eh bien ça y est, on y est, c'est la conclusion de ce livre, Conte des Mille Collines, par l'auteur Lotois Gilles Lade, avec donc la conclusion du poème Un homme seul. Chantal, c'est à vous.
Après le départ de la foule, ils firent le tour de l'église, s'attardant devant les statues des saints et des saintes. Chacun faisait mention de ceux qui lui étaient particulièrement chers, qu'ils soient présents dans un vitrail ou dans une effigie de pierre. Lorsqu'ils parvinrent devant la crèche, ils se sentirent une âme d'enfant. Et c'est en silence qu'ils restèrent un moment devant la douce lumière de la paille et de l'enfant Jésus. Bien peu de temps avait passé en somme depuis leurs jeunes années. Bien peu de choses se trouvaient à s'interposer devant cette scène. En sortant de l'église, dans le grand froid, chacun gardait un silence plein d'allégresse. Lorsqu'ils arrivèrent au domicile de Blaise, Marjorie les attendait, bien plus en amie qu'en maîtresse de maison. Vincent, observant les convives, s'observant lui-même, comprenait que la joie, particulièrement lorsqu'elle est partagée, n'a pas de prix. Certes, ils allaient faire un bon repas, mais l'essentiel n'était pas là. Il leur devenait évident qu'ils pourraient se confier et se conforter mutuellement. Était-ce la présence des femmes, par rapport à leur toute récente rencontre? Était-ce l'enchantement de Noël? Ils n'étaient plus les mêmes que la veille. Chacun se sentait gagné par une sorte d'exubérance et d'abondance de cœur qui venait témoigner du goût et du prix de la vie. Le regard de chacun était radieux, comme celui des enfants lorsqu'il est attisé par l'attente de Noël. Alors que Marjorie énumérait les remèdes à la grippe, elle est pharmacienne, Germain évoqua un souvenir d'enfance. Un jour d'hiver, lui aussi avait eu la grippe ou une affection approchante. Sa fièvre était forte et il restait accablé dans son lit. Ses parents, son père surtout, regardaient avec humeur et contrariété cet enfant décidément malingre et fragile. C'est alors que sa grand-mère, qui surveillait l'évolution du mal, prépara une tisane et la lui tendit. Elle était chaude, très chaude même, avec un arôme épicé et amer. Il la but sans hésiter, puis elle lui dit avec douceur « Essaie de dormir maintenant ». Germain ne se souvenait pas de sa nuit, mais au matin, il se sentit reposé. Tout son corps était parcouru d'une salutaire fraîcheur. La fièvre avait disparu de son front. Il allait appeler sa grand-mère lorsqu'elle arriva. Elle posa la main sur sa tête et lui sourit, d'un sourire qu'il n'oublierait pas. Germain disait « Je ne croyais pas pouvoir être aimé autant. Quand on vous a souri comme cela, on n'a pas le droit de désespérer pour le restant de ses jours. » Une sorte d'émulation les saisissait pour révéler un moment particulièrement décisif de leur existence. Même Quentin, si réservé, prisonnier de son autodiscipline, alla de lui-même au-devant de l'attente générale. Les convives du précédent repas n'eurent aucune difficulté à faire le lien entre les deux récits. Quentin leur déclara « À la fin de mes études supérieures, j'ai passé avec succès et facilité un concours très haut niveau en physique. J'étais prêt à m'engager dans une carrière internationale de chercheur lorsque j'allais passer quelques jours dans ma maison familiale en lisière d'un village. Je me retrouvais seul parmi quelques pièces, soigneusement meublées, disposées avec amour et soin, par deux ou même trois générations. La vue portée loin, les massifs de fleurs s'étoffaient d'une verdure dense. Je me sentis d'abord plongé dans une sorte de confort paralysant. Et la nuit me surprit. Au matin, environné d'arômes et de mystérieuses présences, je fis s'effacer le monde dans lequel j'évoluais, où les formules mathématiques épuraient la réalité jusqu'à l'absence. Des souvenirs de mon absence me revinrent, ces images si colorées que je conservais dans mon petit bureau. Ah, toucher le monde, avant de le mesurer et de le peser, j'étais désormais capable de faire quelques pas à l'intérieur de moi-même. L'humain prenait sens, quelques doutes s'éveillèrent quant à ma future carrière. Ils s'élargirent en une remise en cause radicale. Je devais devenir un autre homme, capable de vivre dans le monde. Au lieu d'être chercheur dans une prestigieuse université, je suis devenu professeur de lycée. Ma vie n'est ni plus facile ni moins problématique, mais je suis capable de voir la beauté partout, sur les visages, dans les personnes, au fil des fleurs et des forêts. Après chaque intervention, le petit groupe semblait méditer ce qui avait été dit. Puis, des commentaires très divers se succédèrent. À un moment donné, Marjorie parut un peu troublée. Elle regarda son mari avec une insistance amusée, se demandant à voix haute ce qu'il allait pouvoir dévoiler. Ah, c'était un défi pour lui, car il était l'hôte et il passait un peu aussi pour l'hôte de sa femme, financièrement parlant, même si aucun des convives ne nourrissait la moindre mesquinerie à son égard. Les amis savaient que Blaise pouvait entretenir des regrets sur le plan littéraire. Autrement dit, il pourrait être bien plus célèbre. L'on pensait qu'il allait argumenter pour démontrer qu'il avait comblé son regard d'une manière ou d'une autre, par exemple en rappelant qu'il était reconnu et apprécié par les grands écrivains. Non, il ressortit de son propos qu'il ne reniait en rien son engagement littéraire. Il avait pris ce chemin comme un autre choisit la lithographie ou l'alpinisme, car il est bien des moyens d'approcher l'absolu. Il professa l'idée qu'il était tout aussi important de lutter chaque jour contre son orgueil, tout en continuant à chercher et à créer. En cela, une personne l'aidait, le soutenait. Son épouse, Marjorie. À demi-mot, il la remercia. Sans doute l'avait-il déjà fait en privé, mais parmi la petite assemblée, cela eut un effet détonnant. Les yeux brillaient un peu quand il eut terminé son récit. Alors les heures passaient dans une joie évidente et vive. L'on s'attendait à ce que Vincent s'exprimât sur un point essentiel de sa vie. C'est alors qu'Adèle et Marjorie firent remarquer que, peu après mai 68, les hommes se regroupaient encore et toujours entre eux. Blaise souligna que leurs propos du jour prolongeaient leur rencontre de la veille. Tous assurèrent que sans la présence féminine, ils n'auraient pas eu un tel cœur à s'exprimer. Après avoir avoué la veille qu'il avait dépassé les bornes de l'égoïsme avec son épouse, Vincent révéla à ses amis qu'il avait rencontré le contre-exemple vivant de son comportement. Il avait fait la connaissance d'une dame âgée qui habitait dans son quartier. Lors d'une conversation au bord du Célé, elle lui avait dévoilé toutes les épreuves de sa vie. Travail pénible, mari cynique et volage, enfant ingrat, problème de santé. Elle lui confia que néanmoins, elle avait naguère encore consacré du temps à la contemplation, en prenant de la hauteur pour mieux découvrir la ville et la vallée du Célé. Cette expérience dominée et victime était à l'exact opposé de la sienne. Le regard clair de la vieille femme et sa voix sans amertume l'aidait à donner tout son prix au simple fait de vivre. Vincent eut un éclat dans ses yeux qui valait renoncement à tous les prestiges personnels. Un peu l'enthousiasme de l'aïeul qui accueille ses enfants ou ses arrière-petits-enfants un soir de novembre où rien ne les annonce. Pour ne pas se quitter sur cette émotion, ils en revinrent à des propos plus proches du quotidien et firent de fermes projets pour l'avenir à venir. La nature y avait une bonne part et chacun avait bien d'autres domaines d'intérêt. Au moment de se séparer, leur fraternité sans ombre s'exprima et une joyeuse vitalité d'éclat de voix. Quand Vincent se retrouva dans la rue, il se sentit enveloppé par le froid, un grand linceul de silence et de dépouillement. Quelques étoiles vinrent à lui à travers les lumières de la ville. Il essaya de tirer toutes les conséquences du fait qu'il vivait seul. Et puis, il souhaitait avancer encore à la lumière de ce qu'il avait fait de mieux. Déjà bien avancé sur le chemin des renoncements et des abandons, saurait-il parvenir à la véritable paix sans amertume? Peut-être. Alors, pourrait-il cheminer de conserve avec les défunts qu'il avait connus et dont il souhaitait que chacun fût mort avec une âme d'enfant? Pour chacun des disparus, il se remémorait telle parole, tel regard, qui donnait espérance en lui. Il continuait de s'entretenir avec eux, comme si leur lien ne devait pas se rompre. De presque tous, il conservait un bon souvenir. Le chant de fleurs de l'au-delà était irrésistible et il aidait à cheminer dans toutes les rues et dans toutes les nuits. Voilà, nous terminons ce joli conte rédigé avec tant de délicatesse et d'amour, et nous pouvons imaginer absolument derrière chaque personnage une vie et beaucoup de sentiments nobles.
Merci beaucoup Chantal et à bientôt pour une prochaine émission.
Voilà, je vous remercie chers auditeurs. Et je vous remercie, Armand, de continuer votre travail.
C'était votre émission Patrimoine et Spiritualité. Une émission qui a été réalisée avec Chantal Bruel.